Et du coup, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu donc pour notre petite table ronde sur la semaine de l'agriculture. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Il y a du goûter, c'est pour vous. N'hésitez pas à le prendre aussi, à voir des trucs. Et là, il y a plein de documentation en sortant. Même si vous devez sortir pendant ou quoi, n'hésitez pas à prendre des trucs. Tous les papiers sont super intéressants. Voilà. Il y a même des stickers. Voilà. Donc du coup, pour introduire brièvement, l'agriculture, c'est un peu l'occupation de la plupart des terres dans le monde et puis le point d'ancrage de nombreuses cultures, donc la base de la subsistance. Donc c'est un des plus grands sujets environnementaux et écologiques. Pourtant, aux mines, on n'en parle pas tant que ça. On parle beaucoup de CO2, on parle beaucoup d'énergie. Pas tant que ça agriculture, pas tant que ça pesticides. Si, aujourd'hui.
Ah, merci, Romain. Et les autres.
On se pose pas trop de questions sur ce qu'on mange, ce qu'on achète aussi avec nos assos, d'où ça vient, qui le produit, pourquoi. L'agriculture, c'est pas juste un problème parmi d'autres, parce qu'il est central et aussi de par son ampleur. Parce que, on va en reparler, mais on retrouve des pesticides partout. Et des pesticides qui sont extrêmement puissants. Juste un petit chiffre, c'est qu'en 2022, en France, on avait produit assez de pesticides pour tuer 10 fois le nombre total d'abeilles de la planète. C'est un sujet qui est absolument central, et donc c'est pour ça qu'on a organisé une semaine de l'agriculture paysanne, avec l'appui des Amis de la Terre. Merci, Lauriane. Pour l'aide. Les Amis de la Confédération Paysanne. Pardon, je travaille aussi beaucoup avec les Amis de la Terre, qui sont très chouettes, également. Évidemment, parler du paradigme agricole dominant aujourd'hui, c'est par les pesticides et leur pendant, les OGM. La question qu'on se propose de traiter, c'est comment est-ce que ce modèle détruit les sols et la biodiversité? Quels sont les dangers sanitaires et sociaux et comment on peut s'en sortir? Aujourd'hui, pour répondre un peu à tout ça, on accueille trois intervenantes pour parler des impasses du système agricole extensif à base de pesticides et OGM et d'alternatives. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement un peu votre parcours, ce sur quoi vous travaillez et ce sur quoi vous battez? Voilà, très, très rapidement d'abord, on va revenir dessus plus en détail après. Comme vous l'expliquez.
Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Isabelle Goldringer, je suis chercheuse à l'INRAE en région parisienne dans une unité qui s'appelle génétique quantitative et évolution. Et donc je suis généticienne des populations, à savoir que je ne m'occupe pas de la génétique moléculaire ou de la génomique, mais je m'intéresse à la diversité génétique des espèces cultivées. Donc, je travaille sur l'idée que, enfin, pas sur l'idée, et puis sur, avec des projets concrets, sur le principe de remettre de la biodiversité cultivée dans les fermes et le fait qu'avec cette biodiversité cultivée, on peut atteindre plus de résilience, avoir des pratiques agroécologiques durables. Et pour ça, je travaille beaucoup avec des agriculteurs et agricultrices organisés dans des collectifs et donc sur la question des semences et donc sur je les accompagne dans la réappropriation des semences par ces collectifs. Ça suffit à ce stade.
Bonsoir, donc je m'appelle Yves Berthaud, je suis directeur de recherche INRA honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle, donc au Jardin des Plantes à côté. Au départ, j'ai été enseignant-chercheur à l'agro pendant 20 ans en phytopathologie, donc les maladies des plantes. Et puis à un moment donné, j'ai coordonné un programme INRA sur une nouvelle technique qui s'appelait la PCR, la Polymerase Chain Reaction. Donc, vous avez peut-être entendu parler pour la détection de la COVID, enfin, du virus, voilà. Et donc, on a publié là-dessus. J'ai eu un programme européen qui fait qu'on a commercialisé le premier kit de détection PCR de bactéries phytopathogènes, la jambe noire de la pomme de terre. Et quand les premiers cargos d'OGM sont partis des États-Unis, convoqués par le ministère, on nous a demandé d'essayer de faire quelque chose. Ça bougeait pas. Et à la fin, les pouvoirs publics ont demandé à l'INRA de créer une équipe sur la détection des OGM. L'INRA s'est retourné vers moi. Je suis passé à l'INRA. J'ai quitté l'agro. Et donc, on a en particulier coordonné un gros programme qui s'appelait CoExtra, c'est le plus gros programme européen sur la coexistence et la traçabilité des filières OGM. Contrairement à ce que vous dit Romain, ne prenez pas celui-ci parce qu'il fait 600 pages en anglais et le livre vaut 270 euros. Il est destiné à la bibliothèque des mines, donc c'est pas un flyer à emporter. Voilà, et donc, coexistence, traçabilité. Et après, je me suis intéressé à ce qu'on appelle la surveillance générale. La surveillance générale, c'est tous les risques qui ne sont pas évalués au niveau des instances d'évaluation, comme le Haut Conseil des biotechnologies auquel j'appartenais. Et c'est les aspects environnementaux. Et donc, pour ça, je me suis rapproché d'un laboratoire où on s'occupe de sciences participatives, qui est le CESCO, au Jardin des Plantes, où on s'occupe de biodiversité, et il y a une centaine de personnes qui travaillent donc sur ces aspects de sciences participatives. Et voilà, et je suis là depuis quelques années. Voilà.
Bonjour à tous, moi je suis Hélène Roubois. Alors moi j'ai un parcours un peu atypique, parce que j'ai fait deux reconversions professionnelles. J'ai fait une école de commerce où je me suis mortellement ennuyée, et puis après je suis partie dans la finance en salle de marché, et à la fin je conseillais les dirigeants d'une grande entreprise systémique, on appelle ça à haut niveau, c'était super intéressant, puis au bout d'un moment j'avais fait le tour, donc je suis partie dans l'environnement parce que je me disais que ça allait pas bien fort dans l'environnement, d'abord dans des ONG plutôt classiques, dont vous connaissez certaines comme le WWF, les pandas. Et puis ensuite, j'étais lobbyiste à Bruxelles, là encore dans une ONG, pour verdir Bruxelles. Et comme j'avais vraiment l'impression de faire un maximum de greenwashing, j'ai démissionné et je suis partie m'installer dans la diagonale du vide. Parce que j'avais l'intuition que le problème écologique était principalement agricole, même si j'avais pas encore compris l'ampleur du phénomène. Et je pense que j'avais besoin de comprendre et aussi un besoin de légitimité, et donc je suis partie m'installer dans la diagonale du vide où je fais donc de l'agriculture depuis 5 ans de manière vivrière, c'est-à-dire que je n'ai pas d'exploitation agricole, je ne produis pas pour vendre à d'autres personnes, je fais beaucoup d'agriculture vivrière, ça comprend donc faire ses semences, l'agriculture vivrière, pour avoir une vraie autonomie sur sa ferme. Et puis, j'expérimente beaucoup et j'apprends encore parce que l'agriculture, je pense qu'on apprend toute sa vie. Et c'est hyper enrichissant, c'est passionnant. Et par ailleurs, je parle beaucoup de pesticides parce que très peu de gens en parlent. Alors que, en fait, c'est la cause majeure de la crise écologique aujourd'hui. C'est aussi très lié à un très grand nombre de pathologies qu'on connaît depuis quelques décennies. C'est aussi lié à la pauvreté dans le monde, notamment par le biais des semences, hein, qui peuvent être une vraie arme d'asservissement en termes géopolitiques. Donc je parle beaucoup de pesticides, on est trop peu à le faire, ça m'a mis un peu en avant, et donc aujourd'hui je donne aussi pas mal de conférences sur ce sujet. Voilà, je crois que j'ai tout dit, merci.
On va attaquer maintenant le vif du sujet, en commençant par une mise en contexte, parce qu'effectivement, comme l'a dit Romain, nous, on ne connaît globalement rien au monde, question de l'agriculture en général. Donc déjà, pour introduire le sujet, est-ce que l'une d'entre nous pourrait définir ce qu'on appelle un système agricole, ce que c'est le modèle paysan, d'où vient historiquement le système agricole moderne, quel est-il, enfin voilà, un peu une mise en contexte de quel paysage on regarde aujourd'hui quand on parle d'agriculture en France, même en général. Enfin, si l'un ou l'une de vous prend la parole là-dessus.
Ouais. Okay, bah, je vais commencer. Je vais parler fort. Okay. Donc, système agricole, ça englobe un peu les pratiques et les activités que les agriculteurs et agricultrices vont avoir sur leur ferme, l'ensemble de tout ça qui vise à produire des aliments ou d'autres choses, qui vise aussi à leur donner un revenu, qui vise aussi à renouveler les ressources sur la ferme, l'ensemble des ressources naturelles et utilisées en production et qui vont avoir des impacts à plein d'autres niveaux. Je pense que ce que vous attendez plutôt, c'est qu'on parle du système agricole à un niveau un petit peu plus large. Et du coup, une entrée, c'est de regarder à quel moment, à quel moment les choses ont basculé vers ce qu'on appelle la modernisation agricole et donc le système agricole dans lequel on est aujourd'hui, qui est une prolongation en fait de choses qui se sont mises en place pour moi au début du XXe siècle. Et je vais le présenter un petit peu sous l'angle du volet semencier, puisque c'est là où je suis vraiment plus compétente. Et donc on peut dire que la modernisation agricole, ça repose sur trois piliers. Le premier, c'est la maîtrise de la synthèse des engrais, en particulier de la synthèse de l'azote minéral, et puis de la synthèse des pesticides. Le deuxième, c'est la mécanisation. Enfin, il n'y a pas d'ordre, hein, je dis, juste pour être sûr qu'on arrive à trois. La mécanisation. Et le troisième, c'est la sélection génétique. Pourquoi ça s'est mis en place, ça s'est accéléré au début du XXe siècle? Parce que pendant la Première Guerre mondiale, les industries chimiques, elles ont développé des molécules et des systèmes, tueuses, qui, à la fin de la guerre, avaient plus d'usage et donc ils ont reconverti vers la synthèse d'engrais et puis de pesticides. Il faut savoir que c'est il y a des chaînes de production qui sont communes là-dedans. Donc après la Première Guerre mondiale, en fait, il y a ce boost qui est permis par les engrais, mais il faut savoir qu'en face, les plantes, au départ, elles vont pas forcément être en capacité de suivre et de valoriser ces engrais et de traduire cet azote sous forme de rendement accru parce qu'elles ont pas été développées pour ça. Et donc, pour revenir au type de plantes avec lesquelles on se trouve à la fin du 19e, début du 20e siècle, je vais faire encore un petit bond en arrière. Et donc, il faut remonter à la domestication des plantes cultivées. Je ne sais pas si vous avez une idée de quand ça s'est passé, la domestication. Enfin, les plus anciennes domestications de plantes, ça remonte à quand pour vous?
5000.
Comment?
Moins 4000.
Même plus ancien que ça. Qui dit mieux?
C'est Géricault.
Comment?
L'époque de Géricault.
Alors, Géricault, je ne saurais pas d'être.
Ah, c'est moins à moins 9000.
Qui dit mieux? 10 000, 12 000 avant aujourd'hui, en particulier pour les céréales à paille dans le croissant fertile. Et puis ensuite, les domestications, elles ont continué. Effectivement, il y a eu des tas d'espèces qui ont été domestiquées il y a quelques milliers d'années, etc. Mais donc les premières domestications, et même si on pense que la domestication la plus ancienne, c'est pas des plantes, c'est le chien. Ça date de moins 30 000 ans avant aujourd'hui, mais bon, restons-en aux plantes. Donc, il y a quelques milliers d'années, les plantes ont été domestiquées, à différents endroits. Il y a eu différents événements de domestication. Une même espèce a pu être domestiquée à plusieurs reprises. Il y a eu des flux de gènes. Enfin, faut voir ça vraiment comme un processus un petit peu en continu. Et puis, ça a induit des changements dans la société. Et en fait, il faut vraiment voir les transformations des plantes comme en réponse aux transformations des sociétés, enfin comme une coévolution entre société et plantes, puisque le fait d'avoir des plantes qui produisaient plus a permis de sédentariser, ça induit des changements dans la démographie, dans l'organisation des sociétés, etc. Et donc pendant des milliers d'années, jusqu'à la fin du 19e siècle, du moins en Europe, ce sont des sociétés paysannes qui ont reproduit les semences de ces plantes-là à la ferme, donc avec dans chaque champ une population de plantes tout un petit peu différentes entre elles, adaptées au sol, au climat, aux pratiques paysannes, aux modes de transformation, sélectionnées par ces paysans et ces paysannes aussi pour l'alimentation, pour des usages particuliers, avec des échanges de semences entre agriculteurs sur les marchés ou ailleurs, des circulations de semences, des déplacements de population. Et donc tout ça, ça a permis au cours des années, par un processus très lent qui a permis aux plantes de s'adapter à des nouveaux milieux, de gagner, par exemple depuis le croissant fertile pour les céréales, les légumineuses, etc., de gagner des territoires de culture jusque dans le nord de l'Europe ou en Australie, donc de diffuser à très grande échelle et donc de conduire à plein de variétés populations, qu'on appelle aussi variétés de pays ou variétés paysannes, adaptées, extrêmement diversifiées, adaptées à des tas d'environnements différents. Et donc ça, là, ça aura valu le coup d'avoir une petite diapo pour montrer des photos de poivrons, de piments, de tomates, de blé, avec plein de formes de couleurs différentes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion paysanne. Si on veut un terme technique en écologie, on peut dire la gestion paysanne en métapopulation, parce que c'est plein de populations qui sont connectées entre elles par des flux de gènes. Et ça permet le maintien de la diversité à long terme, le maintien de l'adaptabilité, la viabilité de tout ça. Et donc, à la fin du 19e, début du 20e siècle, on a quelques agriculteurs parmi ces paysans qui sont très forts dans la section de leurs semences, qui se spécialisent dans les semences. Ils s'aperçoivent qu'ils peuvent gagner plus d'argent vendant des semences que du produit. Ça devient des familles comme la famille Villemorin en France, qui va ensuite être achetée par Limagrain, mais qui continue à vendre des semences de potagère aujourd'hui. Et donc, au début du XXe siècle, redécouvert des lois de Mendel, donc ces anciens agriculteurs spécialisés dans la sélection vont ajouter des connaissances scientifiques pour systématiser le processus de sélection et vont être les acteurs qui vont répondre, qui vont s'insérer dans la modernisation agricole et développer les plantes adaptées aux engrais, adaptées à la mécanisation et avec l'idée de faire des plantes, enfin des variétés les plus productives possibles dans un système qui va fournir des conditions dites optimales pour la croissance des plantes, donc des engrais, de l'eau, des bons sols, des grandes surfaces, etc. Voilà, je ne sais pas, vous me coupez ou quand vous en avez assez.
C'est très bien, on peut la suite de l'histoire.
Comment ?
On veut la suite de l'histoire. Non, oui, du coup, la suite, c'est on parle de standardisation, privatisation de l'agriculture. Et voilà, concrètement, du coup, aujourd'hui, en quoi ça consiste, comment ça marche. Et voilà, et comment, du coup, un peu à l'inverse, comment est-ce que peut-être d'autres systèmes semenciers sont possibles et comment ils pourraient répondre aux problématiques, mettons, de changement climatique, par exemple.
Je n'ai pas mal oublié la parole, mais juste pour dire que ensuite, il y a une autre étape après la Seconde Guerre mondiale où, en fait, l'État, donc, avant, c'était donc des entreprises privées qui se sont spécialisées dans la sélection. Puis, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'État a voulu vraiment développer l'agriculture, la production agricole française. Et pour cela, a voulu booster ce qu'il a appelé le progrès génétique, donc l'arrivée de nouvelles variétés qui allaient pouvoir valoriser ces engrais, bien pousser et produire beaucoup, et donc a imposé un système de réglementation très très fort, donc avec un catalogue des variétés qui est obligatoire pour pouvoir commercialiser une semence. Il faut l'inscrire dans ce catalogue, et les critères pour inscrire des variétés à ce catalogue, ils sont que les variétés elles soient très productives en conditions optimisées et qu'elles soient aussi homogènes génétiquement. Donc c'est les critères que vous entendrez peut-être sous le terme de DHS pour distinction, homogénéité, stabilité. Et pour encourager aussi les sélectionneurs à investir dans la recherche de nouvelles semences, a été mis en place un système de propriété intellectuelle qui est spécifique au végétal et qu'on va retrouver essentiellement, qui a été porté par la France, qu'on va retrouver essentiellement en Europe et puis maintenant dans d'autres pays du Sud, mais qui n'a pas été adopté aux États-Unis, qui est le certificat d'obtention végétale, qui est un droit de propriété sur les semences, qui va entrer en conflit avec les droits des paysans à reproduire leurs semences à la ferme, à les échanger et tout ça, puisqu'il va dire, dès lors que ma variété elle est protégée comme ça, ben vous n'avez plus le droit de la vendre, de la sélectionner, de l'échanger, voire même de la reproduire. Et donc après, la réglementation, elle a autorisé, on pourra revenir, certains droits des paysans, mais il faut savoir qu'il y a eu un équilibre, enfin un conflit qui se fait entre les droits l'appropriation des obtenteurs et les droits des paysans sur ces semences. Et puis je vais laisser
ça marche
mes okay. camarades.
Merci pour cette présentation. Ensuite, je voulais parler un petit peu d'aspects réglementaires et politiques et se demander un peu comment est-ce qu'un modèle agricole ou un autre est favorisé, permis ou bloqué, et comment est-ce qu'on choisit et comment est-ce qu'on instaure les modèles agricoles. Et du coup, je m'adresse surtout à toi, Yves, qui, t'as dit que tu travaillais sur, tu as travaillé aussi sur la coexistence des modèles agricoles, les impacts du brevetage de génome et aussi sur la régulation des NTG. Déjà, est-ce que tu peux définir un peu tout ça
Ça fait beaucoup. on va rester déjà sur les NTG et le prendre comme un exemple.
Ça marche.
D'OGM. Pourquoi est-ce qu'on se focalise en ce moment sur les NTG, les nouvelles techniques génétiques? C'est parce que on les annonce, mais ça c'était ce qui se passait déjà avec les anciens OGM, comme quelque chose de nouveau, de plus ciblé, et qui va résoudre, c'est du technosolutionnisme, qui va résoudre des tas de problèmes, le changement climatique, la faim dans le monde, etc. Si vous vous rappelez que la principale cause de faim dans le monde, ce sont les guerres et les déplacements de population, la deuxième cause, c'est les pertes au long des filières, la production, en fait, c'est simplement des pertes en plus. Donc, c'est ce que j'avais dit une fois dans une audition à l'office parlementaire à un de mes collègues de l'INRA, en disant produire plus pour jeter plus, ça m'intéresse pas beaucoup. Alors les NTG, ce qui pose problème en ce moment pour ces producteurs, ce sont des OGM. Suite à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a rappelé que toutes les techniques développées après 2001, la date de mise en exécution une directive, la 2018, qui définit les OGM, ce sont des nouvelles techniques, et donc les produits qui en sont issus doivent être évalués, et que ces nouvelles techniques, bien que la mutagénèse dirigée existe depuis 40 ans, ça fait 40 ans qu'on fait de la mutagénèse dirigée, avant c'était avec des méganucléases, et maintenant c'est plutôt avec du CRISPR-Cas9, etc. Mais en fait, c'est simplement les outils qui varient, on peut cibler plus d'endroits. Mais ce sont toujours des OGM, et en particulier parce qu'il n'y a pas un historique de sécurité avéré. Et si ce sont des OGM, qu'est-ce que ça implique pour les firmes ça implique une évaluation du risque et ça implique un étiquetage. Et dans un certain nombre de pays, dont l'Union européenne, l'étiquetage OGM fait que la majorité des consommateurs n'en veulent pas. Si vous faites un tour dans les supermarchés autour de vous ou dans les petits commerces, éventuellement, vous pouvez trouver quelques ketchup ou choses de ce genre-là arrivés des États-Unis avec contient des OGM. Mais la majorité des produits ne sont pas, pour l'alimentation humaine, étiquetés, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous d'un certain seuil. Alors, par contre, on en importe beaucoup pour l'alimentation animale. Donc, pour les producteurs de NTG, il s'agit de... En fait, c'est toujours une course à l'innovation, où on vous parle de compétition. Il va falloir innover pour ne pas être en retard. C'est le même discours qu'avec l'intelligence artificielle, etc. Et en fait, c'est une dépendance au sentier. Comme le montrait Isabelle tout à l'heure, on a de l'agriculture intensive, industrielle, avec beaucoup d'intrants qui sont polluants, qui coûtent cher, qui dépendent, par exemple, pour les engrais, de nombreuses importations de gaz, de potasse, de produits, de potasse, par exemple, de pays de l'Est, dont certains, pour lesquels on a quelques problèmes de négociation. C'est du phosphate qui vient, par exemple, majoritairement du Maroc, mais qui contient beaucoup d'éléments lourds qui polluent les sols, etc. Et donc, tous ces intrants posent problème. Et donc, on vous dit, ces produits NTG, c'est extraordinaire, on va réduire les intrants, que ce soit les engrais, que ce soit les pesticides, etc. Et ce n'est absolument pas ce qu'on a pu constater jusqu'à présent. Donc la question, c'est qu'est-ce que pourraient apporter ces NTG par rapport aux anciens OGM dits transgéniques? En fait, quand on regarde les brevets, on s'aperçoit que les brevets, c'est majoritairement toujours la même chose, des résistances à des herbicides et la production de protéines insecticides. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de simple, c'est monogénique, oligogénique, c'est-à-dire il y a peu de gènes, c'est relativement indépendant, et dans l'idée que l'on a de la biologie moléculaire qui est celle des années 70, où en fait le génome c'est un ensemble de briques de Lego qu'on va pouvoir déplacer dans tous les sens, d'une espèce à une autre, etc., alors que c'est totalement faux, c'est une régulation en réseau qui est extrêmement complexe, à un point tel que actuellement, pour les plantes, on séquence des dizaines de milliers de pans génaux et que pour l'humain, on séquence actuellement des centaines de milliers de pans génaux pour essayer de comprendre pourquoi, par exemple, une thérapie génique fonctionne chez l'un et pas chez l'autre et pourquoi un médicament fonctionne mieux chez l'un que chez l'autre. En fait, nous sommes très différents par nos pans génomes. Les pans génomes, on a un génome cœur qui, en gros, permet la vie. Et après, on a plein d'autres choses qui varient, et ça varie aussi bien entre frères, sœurs que dans cette salle. Voilà. Et donc, il s'agit de comprendre pourquoi tous ces outils ne fonctionnent pas, parce qu'on a plein d'outils. On a eu des tas d'outils donc depuis 40 ans, on en a des plus précis qui sont encore de plus en plus combinés. On parle de CRISPR-Cas9, mais CRISPR-Cas9, en fait, a présente un certain nombre de difficultés, et donc on a fait des modifications. Et on ne sait pas reproduire forcément les résultats que l'on a obtenus avec ces modifications des CRISPR-Cas9. Et donc on met des brevets là-dessus pour essayer de protéger, et après, pour se passer en particulier des certificats d'obtention végétale, qui, je ne sais plus si Isabelle en a parlé, l'avantage des certificats d'obtention végétale, c'est que vous pouvez créer une variété végétale en réutilisant la variété végétale d'un concurrent, du moment que les distinctions DHS-VATE, que l'on vérifie après derrière, permettent de différencier de la précédente. Et donc, vous pouvez bénéficier du progrès génétique du précédent pour avancer. Et donc, ces OGM-là, en fait, avec les brevets, vous pourrez en entendre parler, par exemple, par Hélène tout à l'heure, ça pose un problème parce que vous pouvez avoir une firme en Hollande qui va avoir breveté un trait et qui va dire « Ah, mais votre plante que vous avez sélectionnée dans votre jardin, etc., contient ce trait. Et donc, je vais vous attaquer en contrefaçon. Voilà. Et donc, ces brevets sont un obstacle énorme au renouveau de la biodiversité, et en particulier de la diversité génétique, puisque dès qu'on a commencé à faire de la sélection, on a obtenu ce qu'on appelle un syndrome de la domestication, où on a réduit, en fait, la diversité des plantes cultivées. Et je ne parle pas de la biodiversité autour, etc. Et au final, quand vous avez tous ces problèmes de brevets ou de flux de gènes, dont vous parlait tout à l'heure Isabelle, par exemple, un flux de gènes, le maïs, c'est déjà 4 km pour du pollen viable. Donc vous pouvez, si vous êtes en train de faire votre sélection de pollen, de maïs dans votre coin, vous allez avoir 4 km ailleurs un agriculteur qui va faire des OGM, ça va être contaminé. Si c'est du colza, c'est 13 km. Si c'est Agrostis stolonifera que Trump utilise dans ses greens de golf, c'est 20 km. Alors ça peut vous intéresser d'avoir un jardin qui va être traité au glyphosate et qui va rester vraiment très propre en Agrostis jusqu'à ce que des adventices résistantes se développent, comme par exemple l'amarante de Palmer aux États-Unis, elle fait 4 mètres de haut, et Monsanto Bayer paye des équipes pour aller les arracher ou paye des herbicides autres pour les tuer. C'est pour vous dire cette résistance, comment elle se développe, la pression de sélection, etc. Et ces brevets, ces pesticides, alors les pesticides, je parlais des résistances. Le glyphosate, évidemment, à force d'en utiliser, on a eu plein de plantes résistantes au glyphosate. Donc on a rajouté, on a fait ce qu'on appelle un empilage de gènes. On a rajouté une résistance au 2,4-D, qui était un herbicide qu'on espérait ne plus utiliser parce qu'il est assez dangereux. Et puis on a rajouté du dicamba. Le dicamba, il a une dérive, c'est-à-dire quand vous l'appliquez, il s'en va assez loin. Et donc, des dizaines de kilomètres plus loin, vous avez des arboriculteurs qui se sont retrouvés aux États-Unis avec leurs arbres, leurs vergers, atteints par un herbicide. Et ils ne savaient pas d'où ça venait. Donc, des procès extraordinaires. On a le même ce problème en Europe avec le prosulfocarb. Et donc, ça a même obligé des producteurs de soja à prendre la variété de Monsanto qui était protégée contre le dicamba parce que des voisins à côté utilisaient cette variété résistante au dicamba. En gros, vous êtes dans un cercle où vous ne pouvez plus en sortir parce que votre voisin en utilise, donc il faut que vous vous protégiez contre le produit à moins que vous lui fassiez un procès. Et ça va durer des années, etc. C'est pas très facile. Et tout cet ensemble fait que vous avez après des problèmes de coexistence dont je viens de vous parler. Et la première question qui était posée quand on a lancé ce programme européen, c'était peut-on faire une coexistence flexible? C'est-à-dire, par exemple, je suis producteur OGM, Hélène est productrice de bio, est-ce qu'on va pouvoir mettre 3-4 rangs de maïs entre les deux, et puis chacun va faire son produit sans problème? De temps en temps, il y aura un petit problème, mais enfin, ça se réglera entre bons voisins, etc. Et ben, le résultat de quelques années, 200 scientifiques, etc., c'est que la coexistence flexible n'est pas possible. Ça doit se faire par des zones dédiées. Les zones dédiées, alors ça dépend des produits. Quand vous avez un produit qui se répand à 20 km, il suffit qu'il y ait une saute de vent. Pour vous donner une idée des pollens, des flux de gènes, quand on a la rouille du caféier, elle est passée de l'Afrique au Brésil simplement par l'air. Parce qu'à un moment donné, quand le pollen monte, et c'est ce qu'on a vérifié, c'était ma spécialité en phytopathologie avant, on vérifiait ça sur les ailes des avions. En fait, les spores de champignons partaient dans l'atmosphère, dans des zones froides et humides, étaient capables de migrer. Et c'est pour ça qu'on trouvait des spots de rouille du caféier au Brésil, sans comprendre, c'était pas lié ni à l'importation de rouille, de graines, ni à la proximité d'un port ou à la proximité d'un aéroport. Et donc, c'était en fait des spots qui arrivaient d'Afrique. C'est pour vous donner un peu une idée de cette difficulté de la coexistence. Et donc, on en arrive à une coexistence par territoire, en gros du style, on va décider que la Beauce fait du maïs OGM, et puis l'Alsace, qui a déjà un label de qualité, va faire du maïs non OGM. Mais ça devient très vite un problème politique. Parce que vous n'allez pas avoir la FNSEA Coordination Rurale qui va négocier en disant OK, la Beauce, etc. Donc, ça devient un problème politique. Et c'est pour ça que ça ne marche pas pour l'instant. Et on a constaté, en particulier, bon, vous auriez dû avoir Daniel Evin ici, qu'en Espagne, par exemple, tous les endroits où il y a eu du maïs OGM, les bio ont disparu. Parce que 4 km de pollen viable, faut dans un territoire, comme vous êtes dans une vallée, etc. Et puis si vous êtes dans, c'est un peu comme quand la Bretagne traite, deux jours après, ici à Paris, on a des pesticides. Bon, c'est les vents vont plus loin qu'on pense souvent. Voilà. C'est pour vous montrer comme quoi un modèle économique, un modèle de production peut influencer sur tous les autres, plus ou moins alternatifs au modèle mainstream, et combien, par exemple, le bio peut disparaître simplement parce que où il y a du conventionnel et encore plus s'il y a des OGM. Voilà.
Il faut peut-être juste dire aux gens que actuellement en France, il y a un moratoire, enfin, il n'y a aucun OGM qui n'est cultivé, alors qu'en en Espagne, c'est un des rares pays en Europe où ils ont autorisé quelques OGM.
Il y a un seul OGM autorisé dans l'Union européenne.
En France, pour l'instant, il y a.
Il est autorisé dans l'Union européenne. Alors ça, c'est l'autorisation. Après, il y a eu des moratoires qui ont été faits suivant les pays. Et ce maïs 110 a été cultivé en Espagne majoritairement. Au Portugal, il a été cultivé en zone dédiée. C'est-à-dire, en fait, autour d'une coopérative, vous aviez les producteurs d'OGM qui étaient là et qui avaient passé des contrats avec du conventionnel qui était autour et sur plusieurs kilomètres et qui, en gros, isolaient les producteurs de maïs OGM. Et l'intérêt, c'est qu'en Espagne et au Portugal, en fait, le maïs sert majoritairement à l'alimentation animale. Vous n'en consommez pas comme ça. En Allemagne, les deux ans où ils ont fait du maïs, ils ont fait l'inverse. Ils ont pris les bio, se sont rassemblés, enfin, ont négocié et se sont fait protéger par du conventionnel au cas où il y aurait des OGM à côté. Et les autres pays, comme la Tchéquie et la Slovaquie qui avaient commencé à faire des OGM ont arrêté parce que en fait ça rapporte rien de spécial et c'est très peu valorisé parce que c'est toujours l'alimentation animale. Pour vous donner une idée des problèmes de coexistence, c'est pas seulement l'alimentation. Quand vous faites des OGM, vous voulez faire aussi par exemple des vaccins contre le porc. À un moment donné, on s'est retrouvé dans les chaînes alimentaires avec des maïs qui servait à des vaccinations contre des maladies du porc dans l'alimentation humaine. La première contamination aux États-Unis, ça a été un maïs qui était destiné à l'industrie, il s'est retrouvé dans des chaînes alimentaires, ça a coûté $1 milliard de retrait. Là, il y a 3 ans, on a eu encore quelques milliers d'hectares en France qui ont été rasés parce qu'il y avait eu des contaminations de semences. Et on a des terrains où on avait du colza qu'on doit surveiller pendant 10 ans parce que la dormance de ces graines est telle que vous avez au moins 10 ans pendant lesquels on doit surveiller le terrain pour éviter les repousses. C'est pour vous dire les implications et vous pouvez pas du coup faire des rotations, des tas de choses. Voilà comment un modèle dominant peut s'imposer aux autres.
Ok, donc là on a une bonne visibilité. Comme a dit Romain, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Je pense qu'on a une. Parfait.
Du coup, je me demandais, vu que vous disiez que les OGM servaient dans l'alimentation animale, en France par exemple, vu qu'on ne cultive pas d'OGM, on importe des OGM pour l'alimentation animale. Et
ouais.
Vous savez de quel pays?
Ouais, et Canada. Alors, on en a aussi dans des huiles. Dans les huiles, le problème, par exemple, les huiles raffinées, on n'arrive plus à trouver de l'ADN. On n'arrive plus à les tracer. Donc là, vous avez des possibilités de fraude importantes. Mais généralement, par exemple, quand on importe de l'huile de colza du Canada, Ils ont des circuits de production, etc. C'est une séparation assez forte. Mais sinon, c'est en effet Brésil, États-Unis et autres. Alors, il y a eu à un moment donné une demande, en particulier de la Confédération paysanne, pour l'étiquetage des animaux. Et donc, nous avons été chargés d'étudier avec les collègues de Jouy-en-Josas le sang d'animaux nourris avec des OGM, etc. Et le problème, c'est que on arrive à trouver des séquences multiples qui sont présentes. Donc, on arrive à savoir, par exemple, qu'un bovin a été nourri avec du maïs ou avec de la luzerne ou des choses genre là. Mais ce sont des séquences multiples, des fois présentes à des milliers de copies dans le génome de la plante. Mais savoir, par exemple, qu'elle a été nourrie avec tel ou tel OGM, et là, généralement, vous avez juste une séquence présente, ça voulait dire qu'en gros, il fallait sacrifier tout le sang de l'animal pour arriver et faire des centaines de PCR derrière pour avoir une idée quant au fait que l'animal avait été nourri. Donc, en fait, après, c'est des cahiers des charges qui ont supprimé. Ça revenait trop cher. C'était plus possible économiquement. Donc, après, ce sont des cahiers des charges comme vous avez, par exemple, pour le comté, où vous avez un cahier des charges qui, je suis jurassien d'origine. Vous avez le comté qui est avec un label où on doit ne pas utiliser d'OGM dans la nourriture. Voilà.
Pas directement, enfin, c'est pas très aux OGM, mais là, il y a eu l'autorisation d'épandage de pesticides par drone. Vous pouvez avoir votre avis là-dessus.
C'est une proposition, mais.
Moi, qu'on les mette par drone ou par tracteur, je vois pas bien la différence, pour être honnête avec toi. Et dans cette loi, il y a des choses encore bien plus graves en réalité. Comme le fait qu'on réautorise certains pesticides, comme le fait que c'est le ministère de l'Agriculture qui va pouvoir faire les autorisations de mise sur le marché en son propre sein, en bypassant tous les organes réglementaires normalement qui s'occupent de ça, donc qui font moyennement leur travail aussi, tu verras, mais voilà. Et un troisième truc qui m'avait choqué, merde, je me dis, parce que j'avais fait un post exprès là-dessus, mais oui, enfin, tu vois, qu'on le mette par drone ou par tracteur, oui, c'est tu vois, ça nous fait penser à une dystopie, donc ça nous gêne, ça nous met mal à l'aise. Mais le problème, c'est surtout qu'on met des pesticides toxico-nanogrammes, tu vois, voilà, qui dégradent le système nerveux central. C'est quand même un peu un problème. Et après, on se demande pourquoi tout le monde est dyslexique, HA, TDAHA, ou à Alzheimer et Parkinson, quoi. Tu vois, c'est un peu le problème. On a beaucoup parlé des OGM, mais même les semences hybrides F1, c'est un appauvrissement génétique. C'est une forme d'uniformisation. Alors, c'est pas des clones, parce qu'on a des vrais clones en arboriculture, en viticulture, dans tout ce qui est greffé. Mais on a un appauvrissement génétique qui est quand même assez proche du clone, on peut dire. Et si vous voulez, c'est problématique. Pourquoi ? Si, par exemple, nous, pendant le Covid, on avait tous été génétiquement uniformes et qu'on était sensibles au Covid, on serait tous morts. Et c'est bien parce qu'il y a une variabilité génétique que toutes les plantes ne répondent pas aux mêmes maladies, ou bien... à la même canicule, au même froid, aux mêmes conditions. Et donc, cette variabilité, elle est fondamentale. Moins vous avez une variabilité, plus vous êtes sensible au moindre pet travers, entre guillemets, quoi. Donc, vous mettez plus de pesticides, ou bien, attention, le réchauffement. Et d'ailleurs, t'as dit OGM et réchauffement. Il faut faire très attention, parce que ça, c'est un des arguments principaux, aujourd'hui, de l'agrochimie et des semenciers qui produisent ces semences, pour dire, oh là là, comme on va avoir le réchauffement, il faut absolument faire des OGM. Vous comprenez, qui vont résister à des températures caniculaires, à des sécheresses, à ce que vous voulez. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de limite génétique aux températures. Par contre, il faut de l'eau. Ça, on est bien d'accord.
Et surtout, c'est des systèmes extrêmement complexes. Les gènes qui sont impliqués à la germination ne sont pas exactement les mêmes qui sont impliqués à la croissance, qui sont pas impliqués, qui sont différents quand il y a le remplissage du grain. C'est de la régulation en réseau. Donc, c'est... Quand on vous dit « je vais vous sortir ça », et parce que ça ne marche pas, ce genre de discours, ils sont obligés de remonter petit à petit dans la hiérarchie de la régulation. Au départ, on disait « on va prendre une chaîne métabolique », etc. Et maintenant, en fait, ils remontent de plus en plus. Alors, c'est du style « on va modifier les effets des hormones végétales ». Or, les hormones végétales agissent sur des tas de facteurs, de chaînes métaboliques, de périodes de croissance, etc.
Ça s'appelle les nouveaux pesticides, là. Ils veulent remplacer, parce que, donc, On a parlé de la résistance à certains pesticides, donc effectivement des OGM qui sont résistants au ground-up. C'est le truc principal développé par l'agrochimie. Mais les pesticides induisent une résistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de plantes qui sont résistantes au glypho. Donc là, ce qu'ils ont développé, c'est l'approche combinée. Ça, c'est leur nouveau grand truc. Comme si c'était pas assez toxique, parce que dans un produit, en fait, il y a une substance active, voire deux, et des dizaines de coformulants, déclarés et pas déclarés, en réalité. Là, maintenant, ils conseillent aux agriculteurs de carrément mettre deux pesticides en même temps. La phytéis, c'est leur nouveau truc, l'approche combinatoire. Parce qu'en fait, on arrive au bout, c'est-à-dire que ça marche plus. Et ils sont en train de préparer la suite, exactement comme ils ont préparé la suite des OGM avec les NGTs, les New Genomic Techniques, ça, dont on est en train de parler. Ils préparent les hormones de synthèse pour remplacer les pesticides, puisque ça marche de moins en moins bien et qu'ils sentent bien qu'on va les interdire, parce que tout le monde est en train de tomber malade. Le cancer est la deuxième cause de mortalité sur les enfants, quand même. Donc, va falloir un peu s'expliquer à un moment, là. Le programme, c'est ça, c'est de mettre des hormones de synthèse partout dans la nature. Donc là, on est déjà en grande extinction de masse. On a exterminé une grande partie de la biomasse animale, une partie de la biomasse végétale, parce qu'effectivement, on cultive quand même peu de variétés et en plus, génétique uniformément, uniforme tout seul, génétiquement, merci. On va juste parachever l'extinction avec des hormones de synthèse, sachant que le vivant a déjà vu son taux de fertilité s'effondrer grosso modo par deux, comme pour nous, hein, moins 54% en 40 ans. On va acheter ça avec des hormones de synthèse qu'on va mettre partout dans la nature pour finir de tromper le vivant. Et donc, c'est vraiment la catastrophe. Faut qu'on arrête ça le plus vite possible. Surtout que, en fait, la plupart des problèmes qu'on connaît sont liés à nos pratiques, au fait qu'on a massivement empoisonné l'environnement. Et ce qui est souvent attribué au réchauffement, en fait, est complètement lié à nos pratiques. Et le réchauffement, c'est devenu la mule de l'agrochimie. Faut bien comprendre ça. Sachant que l'agrochimie finance la recherche. Vous savez qu'on a privatisé la recherche au fil des décennies et des lois de programmation pluriannuelle de la recherche. Ce qui est un énorme problème. En fait, pour moi, il me semble, c'est le nœud du problème. Si on ne réforme pas la recherche et qu'on la déprivatise pas, on va de toute façon avoir des dérives en permanence qui vont revenir. Et donc, ils financent le narratif qui les arrange. Ils financent la recherche sur le narratif qui les arrange bien. Et puis, dès qu'il s'agit de montrer que les pesticides sont à la racine de l'extinction et la cause d'une grande partie de nos problèmes, ben là, bizarrement, il n'y a pas d'argent, quoi. Donc, la situation, elle est extrêmement grave, extrêmement urgente. Je pense qu'il y a besoin d'une prise de conscience collective, même dans les milieux écolos, où j'ai un peu le sentiment qu'il y a un rejet du fait qu'on est dans la sixième grande extinction de masse. Que, à date, ça n'a rien à voir avec le réchauffement. D'ailleurs, aucune espèce n'a disparu à cause du réchauffement climatique à l'heure où on se parle. Bien sûr qu'il y a un réchauffement, bien sûr qu'il est problématique, bien sûr qu'il faut tout faire pour le réduire, mais il ne faut pas se tromper sur l'état des lieux actuels. Enfin, donc, je crache un peu ma balda là parce que ça me paraît important, mais voilà.
Juste pour revenir sur la question que vous donnez sur moins 50% de fertilité ou dans le vivant, ou j'ai pas fait la partie.
En fait, c'est sur les humains, mais c'est pareil, il y a une seule étude qui a été faite sur les chiens. Parce que comme on les aime bien, les chiens, c'est nos copains. Mais vu que la vie sauvage, de toute façon, faut l'exterminer, à part ce qui est des animaux d'élevage, tout est à exterminer. Il n'y a pas d'études, mais si tu veux, toute la biosphère est contaminée par les pesticides. On en retrouve dans les pôles, on en retrouve dans les abysses océaniques, il y en a dans l'air qu'on respire, il y en a partout. La contamination, elle est vraiment globale. Et donc, s'il y a un effondrement de la fertilité sur les humains, si tu veux, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas le même effondrement de la fertilité sur l'ensemble du vivant, en réalité. Tu vois? Parce que les pesticides, alors il y a plein de modes d'action des pesticides. Il y a un réseau qui s'appelle le R4P au sein de l'INRA, Resistance for Pesticide. Je ne sais pas si vous le connaissez, parce qu'à chaque fois que j'en parle à des gens de l'INRA, ils ne connaissent jamais. Ouais, voilà, vous ne connaissez pas. Mais eux, ils ont classifié les pesticides avec 16 grands modes d'action. Donc c'est détruit les acides aminés, détruit les membranes cellulaires, détruit le noyau, détruit les protéines, détruit le métabolisme glucidique, lipidique, stérolique. Bon, je n'ai pas tous en tête, mais voilà, multi-cible, comme si ça ne suffisait pas, ça veut dire qu'il y a plusieurs modes d'action. C'est des perturbateurs endocriniens. Et l'exposition majeure des gens, du vivant, par les perturbateurs endocriniens, en fait, c'est les pesticides. Parce que tu manges 3 fois par jour au cours de ta vie, toute ta vie, et même dans le ventre de ta mère, en réalité, t'es déjà exposé à toutes ces cocktails chimiques. D'ailleurs, sur PubChem, qui est la référence mondiale de la chimie, ça, vous avez peut-être des trucs là-dessus quand même, en fait, de la chimie.
Non, pas de chimie. Bon, pas de chimie.
Bon, bah, PubChem, qui est la référence mondiale de la grande encyclopédie de la chimie, disons. Il y a 328 millions de substances référencées. Bon, dedans, il y a quand même un peu des bactéries, un peu d'autres trucs, mais il y a quand même beaucoup de molécules de synthèse aujourd'hui dans l'environnement. On a d'ailleurs beaucoup de mal à quantifier, mais on pense quand même que c'est des millions.
Et la majorité, il n'y a pas eu d'évaluation des risques.
Non,
donc voilà. Le CHA, l'agence européenne, était chargée d'en évaluer plusieurs dizaines de milliers par an, mais on lui a demandé de mettre un peu le holà récemment, enfin les autorités européennes, parce que ça prend trop de temps, ça coûte cher, et que les industriels sont pas contents qu'on vienne leur demander un peu que fait la molécule sur les gens et sur les animaux et sur l'environnement.
Exactement, donc voilà. Ça c'est un point important. Il y a que eux qui font des tests pour les autorisations mises sur le marché, les fabricants eux-mêmes. L'ECHA, l'ANSES, l'EFSA ne fait aucun test, hein. Ils font une revue par les pairs, donc ils prennent les tests donnés par les fabricants pour les autorisations de mise sur le marché. Donc vous pensez bien que si vous voulez faire une autorisation de mise sur le marché, vous n'allez pas écrire « mon produit est toxique et mortel ». Vous avez peu de chances de passer les AMM. Et il y a un autre truc, c'est qu'il n'y a aucun processus démocratique sur ce sujet-là, parce que je suis sûre que quand vous avez entendu, il y a quelques mois, qu'on a dit qu'on avait autorisé le glyphosate pour 10 ans en Europe, qu'il y avait eu un vote, je suis sûre que vous êtes imaginé que c'était le Parlement européen. Sachez que ce n'est absolument pas le Parlement qui vote, c'est au sein de comités qu'on appelle les SCOPAF, Food, Plants, and je ne sais plus trop quoi. Voilà, Food, Plants, bon, peu importe. C'est des comités qui sont au sein de la Commission européenne, d'accord, où il y a des membres de chaque pays qui sont nommés.
On appelle experts, mais qui sont des représentants des administrations.
Qui sont surtout, dont on ne connaît pas l'identité. Leur identité est gardée secrète. Parce que la commission dit qu'il ne faudrait pas qu'ils soient soumis à du lobbying. Et on a connu l'identité...
La dépression.
Et non pas la dépression. Et on a connu l'identité de celle qui représentait l'Angleterre parce que c'était une femme il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a travaillé des années pour Syngenta. Aujourd'hui, le leader mondial des pesticides. Donc, vous voyez un peu le problème, le niveau de contamination, entre guillemets, à quel point... ces firmes, elles sont vraiment partout, à tous les niveaux, elles sont dans toutes les institutions, à la fois de l'ONU, mais aussi européennes, américaines, enfin voilà, des grands États. Et puis, bah, elles financent la recherche, donc on atteint un niveau de problème là qui est vraiment très grave.
Pour vous donner une idée des évaluations des risques, que ce soit l'EFSA, l'ANSES maintenant, ou le HCB avant, etc., vous avez... normalement, des études qui sont des études réglementaires, selon des normes très strictes qui mettent à peu près 20 ans à intégrer les résultats de la recherche. Et ce sont des études réglementaires qui sont faites par les entreprises et que nous pouvons juste lire et avec des parties confidentielles. Donc, on ne peut travailler que là-dessus. On peut juste dire, ah, on n'est pas d'accord sur votre analyse statistique ou vous avez fait tel type d'analyse génétique, c'est pas suffisant, il faudrait faire ça. Et trois quarts du temps, il faut que ça remonte à l'EFSA qui va éventuellement redemander et ça va reprendre peut-être un an. Mais des fois, la firme décide de ne pas répondre. Et donc, vous faites, en tant que scientifique, un rapport là-dessus. Vous cherchez un certain consensus, donc il y a des choses qui passent à la trappe, hein, faut pas se faire d'illusions. Et surtout, derrière, c'est que vous avez derrière un executive summary qui est fait par le staff de l'EFSA, de l'ANSES, du HCB à l'époque, etc. Et qui est des fois assez déconnecté du contenu. Or, les politiques ne lisent que cet executive summary, qui est quelquefois assez différent et souvent assez... assez gentil pour les produits. Voilà. Donc il faut que vous rendiez compte que évaluation du risque, c'est pas forcément ce qu'on pense une chose, les gens.
Oui.
C'est pour ça que par exemple le glyphosate, il y a une telle discordance entre l'approche EFSA et CHA qui utilise uniquement des études réglementaires fournies par les entreprises. Et le Centre de lutte contre le cancer qui a utilisé des résultats de revues par les pairs, c'est-à-dire des articles scientifiques,
ouais.
Et qui est généralement à peu près 15 à 20 ans en avance par rapport à réglementaire. Il faut que vous compreniez bien ce que c'est que de l'expertise. J'ai fait pendant 30 ans, j'ai fait de l'expertise au niveau européen et français. Je peux vous dire que c'est... Il y a des moments, faut...
Parce qu'en fait, sur le glyphosate, juste pour que ce soit clair, ça fait 40 ans, hein, vous mettez Google Scholar ou vous allez dans PubChem, vous tapez glyphosate, cancer, toxicité, il n'y a aucun doute sur le fait que le glyphosate est cancérogène, il détruit les acides aminés. Les acides aminés, c'est quand même les briques élémentaires de toutes cellules vivantes sur Terre, donc c'est un peu pénible. Et c'est ce qu'il disait, c'est qu'après, il génère une controverse artificielle en produisant de la recherche réglementaire, et après, on est là, « Ah non, bah, on ne sait pas, on n'est pas sûr, dans le doute, allez, réautorisons. »
Alors ça, c'est les marchands de doute.
Exactement, et c'est très important, c'est une clé qui explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui, en réalité.
Ce qui permet maintenant à Trump de dire que la science est une vérité alternative.
Oui, parce que c'est ce qu'on appelle le pseudo-rationalisme, c'est tout le mouvement, en fait... Si vous voulez, le progrès, c'est une religion. Et remettre en question le progrès, pour un certain nombre de scientifiques, c'est inenvisageable. Voilà. Et donc, il y a des gens qui sont dans le déni du fait que le progrès, bah, ça apporte aussi une bombe atomique, ça apporte aussi une extinction, ça apporte aussi des cancers sur les enfants. Voilà.
En gros, il n'y a pas une seule technologie qui soit neutre. Toutes les technologies sont duales. Ça peut être aussi bien éventuellement produire de l'électricité que de faire une bombe atomique. Ça peut être éventuellement faire une thérapie génique pour vous aider à soigner une maladie génétique, mais qui sera vendue 4 à 5 millions de dollars la thérapie. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant des prix des thérapies géniques. Et actuellement, c'est interdit en France, hormis quelques-unes qui sont en train d'être négociées, parce que les firmes américaines qui sont derrière essayent d'imposer le prix qu'elles font payer aux États-Unis. Donc, vous imaginez, on vous demande, vous avez un enfant, vous êtes vous-même atteint d'une maladie génétique, et on vous dit, ah, j'ai un vecteur, je vais pouvoir vous traiter, etc. Bon, il va falloir faire au moins 4 ou 5 traitements dans votre vie, et à chaque coup, c'est 4 à 5 millions de dollars. Vous allez les avoir? Notre sécurité sociale va les avoir? Et puis en plus, on va pas vous promettre que ça va marcher, parce que vous pouvez avoir un pangénome différent de ceux pour lesquels ça a fonctionné. Donc c'est sans garantie.
Voilà. Mais c'est important, là, c'est en fait, on parle un peu d'épistémiologie, et ça, faire de ma part, je pense que vous avez pas du tout d'épistémiologie. Bon ben voilà, faites attention, parce qu'en fait, vos recherches, vos travaux, ce que vous allez faire... Ça peut servir à faire de la guerre, à faire de la chimie qui participe à l'extinction de masse. Et il faut. Je pense que si vous êtes là ce soir à la réunion, c'est aussi parce que vous en avez quand même un peu conscience. Mais voilà, faut faire attention, quoi. La science, comme il vient de dire, elle est duale, quoi. Il n'y a pas de vérité.
Bah justement, je vais enchaîner là-dessus, je pense, avec une question qui est destinée à Hélène. Sur maintenant que l'aperçu des faits est clair, comment on agit, comment on s'engage, et en particulier toi qui as fait des études de commerce, voilà, quels peuvent être nos moyens d'action en tant qu'élève ingénieur, en tant que sortant de grandes écoles, voilà, est-ce qu'il y en a?
Bah bien sûr, vous avez un rôle.
Je vais
vous
demander dans le même sens, juste l'exemple de la question. Avant, il y avait les faucheurs volontaires qui sont apparus il y a 20 ans de ça. Il y a eu des amis de la Cour qui sont nés il y a 20 ans aussi pour soutenir les faucheurs volontaires dans leur procès de ce soir et co-organisé par les amis de la Cour. Et du coup, il y a les faucheurs volontaires, il y a une revue par exemple qui s'appelait Infogène. Il y avait un journaliste qui était là, malheureusement, il a dû partir. Mais malheureusement, il va arrêter de paraître en tant que revue. Sinon, ils ont un super site, je pense que vous les connaissez bien. Donc, a priori, première chose, c'est l'information, hein, que le public soit informé. Et après, la question serait comment est-ce qu'on s'organise, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société civile, en tant que tous les niveaux, en fait, les étudiants, avec les assos, pour faire de la pression sur... puisqu'il y a le lobby des industriels qui sont ignobles. Donc, nous, en fait, en face, on peut se poser dans la balance, en fait.
Ben moi, je pense qu'il faut informer. C'est pas juste étape 1, informer. C'est que aujourd'hui, l'immense majorité des gens ne sait pas qu'il est malade et qu'en fait, que sa maladie a un lien avec les pesticides. Aujourd'hui, dans le monde médical, ça reste un sujet à la fois tabou, à la fois peu su. Les médecins sont pas là pour savoir pourquoi les gens sont malades, ils sont là pour soigner. C'est pas la même chose. Et y a un manque d'information qui est vraiment énorme. Si en fait les gens savaient que ils ont telle ou telle pathologie à cause des pesticides, moi mon intime conviction c'est qu'ils seraient interdits depuis longtemps. Donc tu vois, pour moi il faut continuer à informer sur le fait que la santé, l'environnement, l'extinction c'est la même chose en réalité. On sépare parce que dans les sociétés techniques et occidentales on aime bien faire des silos, mais c'est bien la même chose. Et que si les gens sont malades, si la biodiversité s'effondre, tout ça c'est lié et il faut continuer de le dire. Déjà il y a plein de gens qui savent pas qu'on est en extinction de masse, il y a plein de gens qui savent pas que le cancer c'est la deuxième cause de mortalité en France sur les enfants, que la France est championne du monde du cancer du sein alors qu'elle est une des pires en dépistage. Enfin, il y a encore pour moi un travail énorme à faire sur l'information, et quand les citoyens auront un niveau de conscience sur ce sujet relativement important, alors à ce moment-là l'État pourra commencer à tenir tête à la FNSEA et à l'agrochimie, parce qu'aujourd'hui, la FNSEA, c'est le lobby le plus puissant de notre pays, sans aucun conteste, avec l'agrochimie qui est derrière, et l'État ne fait pas ce qu'il veut. On appelle la FNSEA le ministère de l'ombre, c'est pas pour rien.
C'est la co-gestion.
C'est la co-gestion, exactement, et si vous voulez, les agriculteurs, on les a équipés avec des armées de guerre, donc quand vous vivez sur les territoires ruraux, vous savez bien ça, qui dirige sur le territoire. Et donc, c'est pas parce que Macron décide, comme il voulait en 2017, de dire « dans 3 ans, moi, président, on arrête le glyphosate », puis ben, entre-temps, il a découvert la FNSEA, les lobbies, tout ça, les agriculteurs. Vous avez vu un peu dans les manifestations agricoles, comme l'État est démuni, protéger Rungis, ils y arrivent, mais ils peuvent pas protéger toute la France, quoi. Hein. Et s'il n'y a pas un grand nombre de citoyens qui demandent que les choses changent, vite et bien... J'ai du mal à voir comment l'État va faire, honnêtement. Après, tout le monde est en train de tomber malade, donc ça va quand même se voir au bout d'un moment, et c'est pour ça que c'est surtout pas le moment de laisser tomber, parce qu'autant il y avait des lanceurs d'alerte depuis 60 ans, que ce soit Rachel Carson ou plein de gens qui disaient « ça va arriver, tout le monde va tomber malade, etc. etc. » Bon, ils en avaient pas la preuve, mais là, ça, on y est pratiquement, en fait. Donc c'est vraiment pas le moment de laisser tomber, mais en tout cas pour moi... On est d'abord à l'étape informée, et pour faire pression, va falloir être un grand nombre pour que l'État tienne tête à la FNSEA.
Là, on fait quand même pour parce que des fois, c'est difficile pour informer. Si j'ai cru comprendre, toi, t'as eu des doigts et tout ça.
J'ai juste démissionné d'un comité scientifique d'expertise. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'information, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Quand on voit les conférences de citoyens, bon, vous avez peut-être entendu parler de la dernière avec Macron sur le changement climatique, etc., qui a été suivi de quasiment rien. Mais en 1998, Jean-Yves Le Déo avait, sur le modèle de ce qui se passait au Danemark, organisé une conférence de citoyens, une conférence de consensus sur les OGM. Et pendant des week-ends, des citoyens tirés au sort, etc., ont été informés de manière vraiment neutre des pros, des pour, des contre, etc., des OGM. Ensuite, ils se sont retirés et ils ont fait une liste de recommandations. Quand vous lisez cette liste de recommandations, elle est toujours valable. Principe de précaution, etc., etc. Sauf que les politiques, c'était pas du tout ce qu'ils attendaient. Et quand il y a eu la première conférence à l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur les NTG, à l'époque on les appelait les NBT, Jean-Yves Le Déo, qui avait donc en 1998 organisé cette conférence, a commencé en disant « Je ne veux pas qu'il y ait pour CRISPR-Cas9 ce qui s'est passé avec les OGM et qu'il soit ostracisé. » Donc quand vous avez comme ça des parlementaires qui orientent, alors il était avec la sénatrice Procaccia, qui oriente tout de suite le débat, et j'ai dit, mais alors à ce moment-là, si vous avez déjà fait un choix, c'est pas vous cherchez quoi? Vous cherchez quelques scientifiques pour vous rajouter une petite couche de science sur des décisions politiques? Et c'est là où il m'a sorti, vous, vous n'êtes plus un scientifique, on vous a vu au Parlement européen à côté de José Bové. Et je dis, bah oui, c'est un parlementaire élu démocratiquement, ils m'ont invité à faire une conférence, je suis venu. Comme je viens chez vous, au Parlement français. Vous voyez, la façon de retourner la rhétorique et tout, c'est...
Déjà pour l'information, et moi si j'aurais une grosse critique à formuler par rapport aux conférences de citoyens, les conventions citoyennes, etc., c'est que souvent ça s'arrête malheureusement au stade aux recommandations, on pose un diagnostic, mais pas plan d'action quoi, en fait, par rapport à la réalité telle qu'on est intégrée, telle qu'on connaît. En fait. Donc, c'est ce qui manquerait vraiment aux conventions citoyennes, c'est pas à pas, stratégiquement, un truc terre à terre, comment est-ce qu'on fait pour faire avancer à partir des constats, appliquer à ce qu'on a.
Il faut former beaucoup plus de gens que ça. La convention citoyenne, bon, déjà, c'était une vision très partielle des choses, celle de Macron, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, et c'était une poignée de gens. Enfin, là, il faut massifier, il faudrait que ce soit non plus énorme.
Mais en même temps, ça a été des bonnes recommandations. C'est du bon sens. C'est généralement, ça prend en compte le bien commun, l'intérêt général. C'est des bonnes recommandations, mais comme ça ne plaît pas à certains politiques, c'est enterré.
Et concrètement, comment est-ce qu'on s'organise concrètement pour l'information déjà
Comment est-ce que vous pourriez nous donner une suggestion ou des suggestions pour réformer cette représentativité des experts de l'ANSES ou de l'EFSA? Puisque, comme je l'ai cru comprendre, c'est, pour moi, c'est un des cœurs du problème, sinon le cœur du problème. Le sommet, en tout cas.
Déjà, l'expertise n'est pas reconnue dans vos carrières. Donc, déjà, c'est du temps des hauts progratias. Généralement, vous faites ça le week-end. Bon, si vous vous y intéressez. Si, ensuite, vous avez un staff qui a été choisi, et surtout un président ou une présidente, qui a été choisi dans la ligne que le gouvernement veut. Et quand c'est l'ANSES, par exemple, vous avez une administration avec un directeur qui est un haut fonctionnaire et qui, en fait, pense avant tout à sa carrière. Donc, la seule fois où on a eu quelque chose d'à peu près indépendant, ça a été le HCB, mais avec ce cadre de gens pro. Et il y avait le comité économique, éthique et social à côté du comité scientifique. Et comme, en fait, la FNSEA qui était représentée au comité économique, éthique et social pensait arriver et faire de la co-gestion comme elle faisait au ministère de l'Agriculture. Sauf qu'elle s'est heurtée à la Confédération Paysanne, à Greenpeace, à WWF, etc. etc. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte que c'était pas si simple que ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont supprimé, sans compter que ma démission a montré que le comité scientifique était complètement noyauté. Des dossiers, par exemple sur la surveillance générale, où j'avais une collègue qui me disait, mais en fait, on va pas les embêter, ils ont déjà dépensé suffisamment d'argent, etc. Je leur disais, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait là? On supprime directement la réglementation. Si je suis en train de faire la liste de tout ce qui manque par rapport à ce que demande la réglementation.
Qui est pas très exigeant.
Qui est déjà pas très exigeant. Et on nous dit, et vous avez des collègues qui disent, on va quand même pas les embêter, enfin, il n'y a qu'à laisser tomber. Quand vous entendez ça, vous vous dites, voilà. Donc, il y a un problème de diversité, il y a un problème de discipline différente, etc. Et d'avoir toujours un esprit critique et surtout un staff derrière qui ne va pas vous réécrire l'histoire. Parce que c'est souvent ça.
Mais moi, je dirais quand même qu'il faut interdire la recherche réglementaire. Ça ne devrait pas exister, ce truc-là. Comment ça se fait que c'est les fabricants qui produisent leur propre recherche? Alors, il faut que la recherche académique soit privée, soit publique, et pas privée, parce que même au niveau académique, il y a des problèmes pour se faire financer et il y a besoin d'argent du privé pour faire tourner les laboratoires, ça coûte très cher. Et il faut que les journaux, désolé, c'est mon troisième jour de compte d'affilée, j'ai un peu de mal. Les journaux à comité de lecture fassent leur boulot, parce qu'aujourd'hui, ces soi-disant journaux prestigieux participent à ces fausses controverses. Ils publient des lettres écrites directement par l'agrochimie et les grands semenciers qui donnent sujet à controverses. Alors que quand il y a une étude qui sort en disant le glyphosate, machin, les autres, ils vont pendre une lettre, ils vont prendre même pas une étude en disant « Ah, mais oui, mais leur grand truc, c'est de pointer le fait qu'il y aura un problème de méthode, ça, c'est vraiment le grand machin. Ah oui, mais là, la méthode, c'est trop mieux. » Et les autres, ils publient ça. Et donc, on génère des controverses artificielles comme ça, et ça, c'est un énorme problème.
Et c'est revu, c'est la recherche du sensationnel. Un des gros problèmes qu'on a en science, c'est la reproductibilité. Et c'est valable aussi bien en psychologie, en physique, en biologie, etc. Et vous avez même maintenant des moulins à papier, en particulier en Chine, qui vous pondent des articles, qui mettent même votre nom dans un article alors que vous connaissez pas les autres auteurs, etc. Et vous apprenez tout d'un coup que vous êtes co-auteur d'un truc qui, quelques mois plus tard, va être rétracté, etc. Ça, c'est...
Puis là, avec l'intelligence artificielle, ça va en pondre, là, du papier. D'ailleurs, sachez que Bayer, BASF et Syngenta disent déjà depuis plusieurs années que grâce à l'intelligence artificielle, ils n'auront plus besoin de faire de tests en physique. Donc déjà que les tests en physique sont vraiment de l'ordre de la blague totale, là, ils n'auront même plus besoin grâce à l'IA merveilleuse qui évitera de faire tout test. Et puis, c'est trop bien parce que comme ils ont expliqué hier à leur sommet de l'IA, j'aurais cité texto ce qui a été dit. Grâce à l'IA, on sera en meilleure santé. Parce que, soi-disant, l'IA va permettre de diagnostiquer les cancers et d'en soigner beaucoup plus. Donc, pour eux, ça veut dire être en meilleure santé, hein, au lieu de se demander pourquoi les cancers explosent littéralement dans notre pays. Donc, ça va de pire en pire.
C'est comme les OGM, ça, discours.
Voilà, et donc c'est quand même la recherche, le problème.
C'est une économie de la promesse. On vous promet quelque chose. les NTG actuels, par exemple, c'est comme vous regardez les argumentaires et la rhétorique, c'est exactement celle des années 90, donc il y a quand même un certain nombre d'années, hein, sur les OGM, comme on a eu ça dans d'autres domaines. Voilà.
Juste, si on peut revenir sur la question que tu avais posée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être déjà en tant qu'étudiant-étudiante, c'est demander des cours ou des interventions qui vous semblent manquer à vos cursus pour vous informer, mais informer toute votre promotion suffisamment sur ces enjeux et sur ces questions-là. Peut-être faire des échanges avec d'autres écoles pour ça, par exemple, les agros. Sur le plateau de Saclay, ils sont assez, il y en a certains qui sont assez au taquet, qui organisent des choses, qui mettent un peu la pression sur leur, comment dire, sur leur direction pour avoir des cours et plus ouverts, enfin pour faire changer, pour faire évoluer les cours qu'ils ont. Donc, je pense que ça. À votre échelle, ça peut être une chose. Après, vous êtes aussi des consommateurs. Donc, Daniel Evin était malheureusement pas là, mais l'agriculture biologique, elle est très, elle a été fragilisée ces dernières années, à la fois par la crise économique, les gens qui ont acheté moins de bio, mais aussi par des discours très négatifs. Est très critique sur la bio pour la décrédibiliser, alors qu'en fait, c'est actuellement la seule alternative avec un cahier des charges transparent, etc., sans pesticides, beaucoup plus protectrice de l'environnement, de la santé et tout. Donc, s'organiser en tant que consommateur pour soutenir le plus possible l'agriculture biologique, ou aussi réfléchir à vos projets d'avenir, à vos métiers, à interpeller les politiques, tous nos élus, et puis aussi, ça a été dit un petit peu, essayer de faire changer, actuellement les instances de représentation, on a quand même un déficit, un problème démocratique, et il y a des partis politiques ou des organisations de la société civile qui proposent d'autres modes pour mieux faire, enfin pour prendre des décisions plus de façon plus démocratique.
Merci. Je rajouterais, parce que moi je suis une ancienne présidente et fondatrice du NAMAP. On a tant faire de complètement en mouvement. N'hésitez pas à faire partie du NAMAP. Association qui maintient l'agriculture paysanne, justement. C'est un bio abordable. Donc, vous pouvez gagner 8 euros pour les étudiants. On en a là. J'ai mis en place une ligne sécurité sociale de l'alimentation. Parce que c'est pas beaucoup de moyens financiers que ce parcours. Voilà. Donc, ça, voilà. et réapprendre à aller justement s'inscrire au NAMAP, participer aux chantiers participatifs, motiver les agriculteurs justement dans ces instances de représentation et voter comme c'était le cas pour la Confédération paysanne, qui est la seule viable au sens. Voilà, du coup aussi justement leur donner un coup de main, bah, ça les soulage aussi, quoi. S'intéresser à leurs problématiques, diffuser leurs problématiques parce que eux ils sont sur le terrain, donc ça peut permettre de faire un retour d'expérience. Voilà, c'est une manière de monter. Réapprendre à justement aller à ce qu'il y a une jonction entre le monde rural et le monde urbain, justement en allant en outil participatif. Parce que moi je me rends compte qu'il y a une déconnexion de plus en plus entre le monde rural. Je suis petite fille d'agriculteur et d'éleveur. Une déconnexion entre le monde urbain et le monde agricole. C'est, voilà, réapprendre à cuisiner aussi. Essayer, voilà, la facilité aux soirées étudiantes et tout. Enfin, je sais pas, enfin, moi, j'étais pas comme ça, mais voilà, c'est assez libérique.
Et ça fait
voilà, il y a aussi cette facilité à aller au plus simple, mais parfois, bah, hop, on se fait une bonne bouffe entre étudiants, etc. Et avec des produits bio, de qualité et pas cher avec le produit du NAMAP ou d'autres choses. Et voilà, on se fait une bonne bouffe entre nous et on les met ensemble, etc. Ça peut passer par des choses tout à fait simples.
Se former sur les OGM cachés, etc.
Déjà, quand je me nourris en bio, on ne se nourrit pas d'OGM.
Après, ouais, pour.
Bah, des fois, en fait, bio, c'est pas accessible.
La responsabilité, alors il y a ça, c'est que, voilà, la responsabilité individuelle, il faut savoir que c'est un des leviers principaux des lobbies en général, de tout faire porter sur l'individu. Donc, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de demander à l'état des comptes, quoi.
Ah oui, je suis d'accord avec vous.
Voilà,
aussi,
ça. Voilà. C'est les deux doivent fonctionner de pair. Moi, souvent, l'exemple que je donne en conférence, c'est qu'est-ce qui vous choque, vous, en tant que Français? C'est que les armes soient autorisées aux États-Unis ou que les gens s'en servent mal? C'est plutôt qu'elles soient autorisées. Voilà, c'est pareil. Il faut vraiment qu'on demande à l'État le plus vite possible d'arrêter ces armes chimiques de guerre qu'on met partout dans la nature. Et bien sûr, si les gens peuvent consommer bio, c'est bien. Mais tu vois, par exemple, moi, sur le territoire, la Nièvre, c'est impossible à trouver, sans compter le fait que les gens survivent. Et donc, ouais, en fait, c'est complètement. Non seulement il n'y en a pas, mais en plus,
il n'y a pas de choix à faire.
Hein?
Il n'y a pas de choix à faire. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. L'occasion de dire, il n'y a pas de choix à faire là. La loi doit être changée aux États-Unis, et puis les gens ne doivent pas tirer sur les gens. Il n'y a pas de choix à faire. Bah, c'est les deux. Donc, pour la nourriture, tout, c'est pareil.
Bah, non, dans la nièvre, les gens doivent acheter bio. Il n'y a pas de bio, donc c'est pas possible pour eux. Même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas, quoi. C'est juste pas possible. Il y a que de l'élevage bovin.
Non, mais je fais le parallèle.
Par contre, oui,
je faisais le parallèle avec votre exemple.
On va prendre les questions des élèves et après.
Ouais. Mais après, il y a un goûter qui est 100% bio. Pour suivre la discussion aussi, si vous avez encore des questions à poser, tout ça, si vous avez un peu de temps pour rester.
Moi, je pars à 20h. Ouais.
Voilà, c'est super. Et donc, voilà, on peut prendre deux dernières questions et conclure la partie officielle. Et regarder les super documents, manger le thé, prendre des stickers.
Il y a trois questions.
J'ai vécu le
belge en numéro 1. Ah oui, c'est vrai. Comme vous
voulez. Moi, j'ai une question sur justement le paysage. On a dit qu'il fallait beaucoup informer, etc. Ça en est où au niveau des agriculteurs, agricultrices, du monde paysan en France? On a vu que les résultats, alors il y a eu des élections, je sais pas pourquoi, je suis assez profane sur la question. J'ai vu que, en gros, la France était partagée entre la FNSEA et la coordination rurale, et que l'Ardèche a voté Confédération paysanne. Est-ce que les agriculteurs et agricultrices sont sensibles de manière équivalente à cette question? Sont d'accord avec ce que vous dites.
Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que celui qui tient les rênes des subventions, et la FNSEA est présente dans toutes les chambres d'agriculture et en co-gestion, etc., et le système de vote avec prépondérance à celui qui arrive en premier, fait que la FNSEA a la main mise sur la majorité des subventions de formation, de tas de choses, etc. Donc, beaucoup de gens sont proches de la FNSEA parce qu'il n'y a pas tellement d'alternatives, si vous voulez. Et ça, c'est un système qui a été mis en place par Pisani.
Les élections, là, c'était pour les représentants dans les chambres d'agriculture. Et effectivement, le résultat qu'on a, c'est la majorité dans les départements, enfin, quel syndicat la majorité a été. Et effectivement, précédemment, c'était la FNSEA qui dominait complètement le paysage. Et là, la coordination rurale, elle est remontée. Elle a, je crois, une quinzaine, je ne sais combien de départements. Le mode d'élection, il n'est pas du tout démocratique parce qu'il donne énormément de poids à celui qui arrive en tête. Et du coup, le nombre de représentants, il est pas du tout proportionnel à ce qu'ont voté les agriculteurs. Et après, c'est vrai que parmi les agriculteurs, il y a une diversité d'opinions et il y a aussi un décalage fort entre les gens de la base et puis les représentants de la FNSEA qui s'expriment. C'est pas du tout des agriculteurs, la plupart du temps c'est des gens qui dirigent des gros groupes industriels de l'agro-industrie et qui ont rien à voir avec des agriculteurs du terrain. Voilà. Il y a actuellement un gros enjeu de renouvellement de la population agricole. Il y a près de la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années, qui trouvent pas forcément de repreneurs. Et beaucoup de fermes, elles sont en train de partir soit à l'agrandissement, soit... Donc c'est vrai qu'il faut vraiment s'occuper, s'intéresser au monde agricole. Faut pas dire aux agriculteurs, les prendre de haut et leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent plein de choses, simplement, tel que c'est reformulé. Pour moi, on prend la voix des agriculteurs pour la transformer. La majorité, ils demandent pas, ils sont pas contre l'environnement ou la santé, etc. Simplement, on reformule leur message sur le dos de l'écologie et des questions environnementales. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un revenu de leur travail et d'être encouragés, d'avoir une visibilité. Je pense qu'ils peuvent tous aller vers des pratiques respectueuses de l'environnement s'il y a un soutien et une visibilité en direction de ces pratiques-là et si on passe pas notre temps à revenir sur des interdictions, etc. Et si on soutenait vraiment, donc par les politiques alimentaires, donc à l'achat, en orientant l'achat dans tout ce qui est restauration collective de produits bio. Alors, si on va sur un maximum d'agriculture biologique, ça crée des débouchés. En fait, on pourrait piloter et orienter l'agriculture pour qu'elle aille vers ça. Et ce qu'il faut vraiment pas se laisser dire, c'est que il n'y a pas de solution. Actuellement, il y a des agriculteurs qui savent cultiver sans pesticides, avec des bonnes pratiques. Ils sont en bio ou parfois même sans label. Il y a aussi Nature et Progrès. Enfin, on sait faire. Il suffirait de peut-être manger un tout petit peu différemment pour que ce soit suffisamment, cette agriculture biologique, elle soit assez productive pour nourrir tout le monde. Et la France, elle n'a pas vocation du tout à les nourrir ailleurs dans le monde. Et donc, faut pas se laisser dire qu'on n'a pas de solution, qu'il faut attendre encore avant de trouver des solutions. On les a, il faut soutenir les agriculteurs qui ont ces solutions-là.
Il y a 20% des agriculteurs qui sont sous le seuil de pauvreté. Et tous les dirigeants de FNSEA, etc., sont des propriétaires de fermes qui font plusieurs centaines d'hectares. Mmh. Et ils sont presque tous, à côté de ça, présidents de chambres d'agriculture, présidents de Avril ou d'autres entreprises, etc. Donc, et quand vous avez une coopérative comme Ville-Morin, et ça n'a plus rien d'une coopérative. Voilà. Il faut resituer vraiment le problème. Sur les 500 000 agriculteurs qui restent, il y en a la moitié qui vont disparaître dans les quelques années. Donc, vous allez avoir une PAC qui favorisait pour l'instant les grandes surfaces, qui va continuer parce que le lobby, ça va être je m'agrandis, donc il faut que j'aie de plus en plus de subventions. Le revenu agricole moyen, maintenant, c'est près de la moitié de subventions.
C'est juste, Isabelle, elle vous disait c'est pas vrai le fait qu'il n'y ait pas de solution, parce que vous avez peut-être déjà entendu, hein, mais un des leitmotifs principaux de la FNSEA, c'est pas d'interdiction sans solution. Sauf qu'effectivement, les solutions, on les a, puisque toutes les filières existent en bio et qu'on a fait 12 000 ans d'agriculture biologique, donc on devrait s'en sortir. Après, moi, j'avoue que j'ai passé un an au lycée agricole et je ne serais pas aussi optimiste que vous sur les agriculteurs. Je vous avoue que j'ai un peu perdu l'espoir de les changer, de les faire évoluer. Il y a une raison assez simple, hein, c'est que en fait, ils en ont rien à cirer de ce qu'on leur explique au lycée agricole. Même si au lycée agricole, on leur expliquait des choses bien qui seraient à l'objectif de ce qu'on voudrait atteindre, ils étaient tous sur les genoux de leur père à 3 ans dans le tracteur, et c'est pas les profs au lycée agricole qui vont leur... Pour eux, ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont rien à leur apprendre. Surtout que la plupart des profs n'ont pas d'exploitation agricole. En tout cas, dans mon lycée agricole, c'était comme ça. Et donc, ils en ont vraiment rien à secouer de ce qu'on leur explique au lycée agricole. Bon, sachant qu'on est un peu loin de l'objectif que je pense qu'on aimerait tous les trois ici. Voilà. Donc moi, j'avoue que Voilà. Après, moi, j'étais dans un endroit très reculé. Peut-être que les lycées agricoles ne sont pas tous comme le mien. Voilà, moi chez moi, un autre truc aussi que je voulais dire, on n'est plus enregistré. Non, ça s'est arrêté. Mais bah, tu comprends, mais que moi, ce que j'entendais au lycée agricole, c'est que la bio, c'est un truc de PD, quoi. Voilà. Et en fait, c'est vraiment un système de. Et donc, si on double la PAC pour qu'ils passent en bio, peut-être qu'ils changeront d'avis, parce que l'argent, c'est un driver très fort dans le milieu agricole. Mais c'est pour ça que moi aujourd'hui je m'axe sur mettre la pression à l'État pour que l'État fasse interdire, parce que l'idée de changer les agriculteurs, je vous avoue que je suis un peu revenue de là après avoir passé un an au lycée agricole. Je pourrais vous dire tout ce que j'ai entendu, mais ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer, honnêtement.